Voilà, donc je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes présentes. La salle semble un peu vide, mais il y a normalement une centaine de personnes inscrites. C'est vrai que dans une salle de 300 places, il y a des places vides. Mais le sujet est un sujet délicat, intime, et donc on va travailler dans l'intimité. Je suis heureuse d'ouvrir cette journée sur la sexualité, l'intimité et les personnes qui le vivent avec une lésion cérébrale acquise. Je voudrais remercier tous mes amis et collègues, tant de la Bresse que de Ibis. Il y a des personnes dans la salle que je n'avais plus vues depuis très longtemps, comme Anna Mazouki. Je ne vais pas citer tout le monde. Je suis très heureuse d'accueillir Neil, qui atterrit de Floride. Donc voilà, il y en a qui viennent de très loin pour être avec nous aujourd'hui. Emery Guillermo aussi, de l'UNAFTC, Odile Kozlowski et son équipe. Enfin, j'en oublie, et donc ce n'est pas très bien que je commence à citer des gens, sinon d'autres vont se sentir oubliés. Alors, pour commencer, je voulais donner la parole à Étienne Kopiters, qui est le conseiller de Madame notre ministre Frémaux, qui est la ministre qui s'occupe en région bruxelloise de la politique du handicap. Donc, Monsieur Kopiters, bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour à tous. Alors, je vais dire quelques mots de départ pour ouvrir cette journée. Et d'abord en me positionnant, je dirais, moi, en tant que personne, personne valide, sans déficience, mariée depuis 20 ans avec trois enfants, et avec déjà un certain âge, et donc avec peut-être, parlons sexualité, avec une sexualité déjà plus apaisée que jeune. Et ça pour se dire, en partant de moi-même, pour se dire, comme vous, professionnels, qui sommes-nous pour parler de ce sujet-ci, qui est un sujet très difficile et qui s'adresse spécifiquement à des personnes qui, par suite d'un accident, ou que ce soit un accident de voiture, un accident cardiovasculaire, ont perdu des potentialités, ont eu des déficiences. Et donc, ils étaient pleins de potentialités et ils espèrent combler certaines choses ou ils sont en perte de certaines choses. Et on doit en fait vraiment d'abord écouter en fait cette personne dans leur souffrance pour vraiment comprendre ce qu'elles veulent. Cette souffrance, en fait, permet en fait de revendiquer certaines choses. Et c'est un moment important dans cette journée d'entendre ces personnes et d'entendre en fait le cri qu'elles nous adressent pour dire tiens, mais moi je veux telle chose, et est-ce que vous pouvez répondre à mes attentes? C'est une première étape, écouter. Deuxième étape pour les personnes, c'est de pouvoir revendiquer et après de pouvoir discerner en elles quels sont les besoins qui sont légitimes et les besoins qui ne le sont pas de leur point de vue. On est là et on pourra peut-être philosopher, peut-être avec Monsieur Jean-Michel Longuenot, sur après, qu'est-ce qu'on peut atteindre? Quels sont les buts légitimes? Et puis, sur cette maxime, est-ce que la fin qui est légitime justifiera les moyens pour y arriver? Et je pense, je dirais, à deux cas spécifiques. On peut, je dirais, pour les personnes cérébralisées, vous avez en fait des personnes qui sont mariés ou en partenariat avec quelqu'un. Donc, c'est une relation, en fait, qui doit se construire ensemble, en couple. Et puis, vous avez, en fait, les personnes qui sont, par le hasard de la vie, célibataires et donc qui doivent un petit peu gérer ce rôle-là. Alors, deuxième grosse question qu'il me revient d'aborder, c'est quel est le rôle de l'État dans cette question? Est-ce que le rôle de l'État, traditionnellement, il est soit d'agréer ou de subventionner. Il est d'agréer ou de ne pas agréer, ça veut dire d'agréer ou de ne rien faire, ou à la limite d'interdire. Donc on a vraiment cette question en fait qui va traverser, je dirais, la journée, avec pas nécessairement une réponse qui doit être donnée tout de suite par l'État. On est dans un rôle où l'État se doit peut-être d'être subsidiaire par rapport à la réponse qui est donnée, de laisser d'abord les acteurs eux-mêmes choisir, je dirais, leur raisonnement et ce qu'ils peuvent faire et ne peuvent pas faire, mais aussi dans cette agréer ou ne pas agréer ou bien même interdire, on a quand même, il ne faut pas l'éviter, on a cette difficulté de respecter l'ensemble des personnes et de ne pas traiter les personnes comme des objets. Et c'est un débat qui traverse tous les partis philosophiques ou politiques et qui est même très présent dans, je dirais, les causes féministes qui hésitent entre deux attitudes à prendre, entre soit interdire certains actes, et on vise spécialement la prostitution, ou bien l'autoriser dans certains moyens. Alors, je sais que ma ministre est une fervente féministe, et elle a été présidente des femmes de son parti, et qu'elle est très attachée au respect de la cause féminine et à son intégralité. Et donc ça, c'est pour dire l'opinion de départ de notre ministre, ce qui permet de gérer de lancer le débat, mais surtout, d'abord et avant tout, à écouter les intervenants qui vont présenter les solutions diverses. Et je remercie d'ailleurs les Suisses, les Anglais, les Italiens qui sont venus en masse pour nous expliquer, je dirais, les solutions européennes qui ont été mises à l'œuvre. Voilà. Merci. Et je repasse la parole à Madame Croisio.
Merci. Donc, sexe, intimité, lésion cérébrale acquise. La question de la sexualité des personnes handicapées se pose, quelles que soient les déficiences. Donc ici, effectivement, aujourd'hui, la journée d'études est consacrée aux personnes qui présentent un handicap acquis. Et ça, sans doute, c'est une particularité, puisqu'il y avait la sexualité avant, et puis il y a la sexualité après l'accident. Alors j'ai été rouvrir des livres de sociologie pour revoir un petit peu l'historique autour de tout ça. Et c'est vrai qu'avant les années 2000, je dirais de façon assez large, la sexualité des personnes handicapées, je vais être assez caricaturale, c'était ange ou démon. Ange, ça veut dire asexué, ils n'ont pas de sexe. Ou démon, oui, ils en ont et c'est tout à fait débridé. Je caricature, mais c'était dans les esprits. Depuis les années 2000, on parle du droit à la sexualité, on parle d'aide, d'assistance ou d'accompagnement sexuel. On verra dans la journée des exposés qui poseront ce cadre-là avec la question effectivement juridique. Est-ce que c'est un accompagnement sexuel? Est-ce que c'est de la prostitution? Je pense que toutes ces questions vont être abordées. Il me semble essentiel de ne pas réduire la sexualité à un acte technique en vue de réaliser un acte sexuel. Et je crois que nous avons beaucoup de chance de pouvoir écouter des personnes qui vont témoigner elles-mêmes de ce qu'elles en pensent. Il s'agit bien de relations avant tout, il s'agit de vie affective et sexuelle. Et quand on parle de relations, on est dans une rencontre et nous avons tous besoin, handicapés ou pas, de l'attention bienveillante des autres, du regard sur nous. Et cette attention et ce regard bienveillant vont nous permettre de prendre confiance en nous. Alors, l'intimité, par rapport à l'acte sexuel. Et Dieu sait si on peut être bien après un acte sexuel si l'intimité est bien en place. Si on va du côté de ce que nous apprend Salomé et que certains connaissent pour le bonheur de le vivre, le couple, ben, il se construit dans la durée. On apprend à créer ensemble une intimité personnelle qui est reconnue par l'autre et où chacun est respecté avec ses points communs et ses différences. Donc la véritable intimité, c'est pas tirer son cou, excusez-moi, en 15 minutes dans une chambre d'hôtel. La véritable intimité, c'est une relation qui va se construire au fil du temps, un apprivoisement, et ça prend des jours, des semaines, des mois, des années. L'accident cérébral, évidemment, vient bouleverser cette intimité, aussi bien pour la personne elle-même dans son corps directement, puisqu'elle va vivre la période du coma, la période des soins, donc elle devient avant tout un objet de soins, et elle est bien souvent manipulée, et je pense qu'on entendra les témoignages qui seront bien éloquents à ce sujet. C'est aussi une cassure dans l'intimité de l'être, parce que quand on se réveille d'une blessure au cerveau, on se sent parfois étranger, on n'a plus l'impression de réagir de la même façon au niveau émotionnel, au niveau comportement, on ne se reconnaît pas, on perd confiance en soi et on perd en estime de soi. Aussi une rupture dans l'intimité du couple ou dans l'intimité de la sphère affective, tout simplement parce que quand on est à l'hôpital, eh bien, on est en chambre commune ou même peut-être en chambre seule si on ne peut le faire, mais les portes sont ouvertes ou elles s'ouvrent sans frapper. Donc comment voulez-vous être en intimité dans un lieu où c'est ouvert à tout? Et en centre de rééducation, c'est à peu près la même logique aussi. Et là, les personnes connaissent de longs séjours en rééducation où la question de l'intimité est clairement posée. Donc le thème que nous voulons aborder aujourd'hui est vraiment complexe et multivariable. Le programme est à l'image du thème. Vous avez vu, on a la chance d'avoir des témoignages de différents pays et de différents niveaux. Il y a des philosophes, des avocats, des médecins qui vont parler. Et je pense qu'on va aborder les choses à un certain niveau, mais qu'on n'ira pas dans la profondeur, parce que c'est un thème bien complexe. Alors souvent, ce sont les experts qui parlent au nom de la personne cérébro-lésée ou au nom des proches qui vivent avec elle. Or, on est bien dans l'intimité et on est bien au cœur de chacun d'entre nous. Et donc, franchement, je pense que c'est d'abord en donnant la parole aux personnes elles-mêmes qui vivent les choses dans leur corps, dans leur tête, dans leur cœur, dans leurs relations, que nous allons pouvoir apprendre comment avancer ensemble et comment les accompagner au mieux. Personne ne peut se mettre à la place de la personne qui vit une déficience. La personne valide qui est face à la personne handicapée va la considérer en fonction du manque, en se mettant dans sa peau de valide et en se disant « Mon Dieu, elle n'a pas de bras, mais comment est-ce qu'on peut vivre sans bras ?» C'est le manque qui apparaît. Mais la personne sans bras en face, elle vit sans bras. Elle ne vit pas le manque de la même façon. Donc quand on parle de sexualité, essayez d'approcher la sexualité déjà entre valides. Je ne sais pas combien d'entre vous parlent de leur sexualité, de leur intimité sexuelle entre vous. Je suis sûre que vous n'oseriez pas lever le doigt, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors, de quel droit la personne valide va-t-elle aller parler au nom de la sexualité de la personne handicapée? Écoutons les personnes qui le vivent et voyons avec elles leurs attentes et leurs besoins. Enfin, un dernier petit mot, parce que ce n'est pas dans l'intitulé de la journée, et on n'en parlera pas beaucoup aujourd'hui, mais ça me semblait quand même un point important. Sexualité amène à procréation et à parentalité. Les personnes dont nous nous occupons, qui sont devenues cérébro-lésées, avaient des enfants avant l'accident. D'autres deviennent parents après l'accident. Donc la question de la parentalité, pour nous, s'est imposée d'emblée à la braise. Mais donc, on est en train de se poser la question aussi, est-ce qu'une personne handicapée a le droit d'avoir des enfants? Est-ce qu'une personne handicapée qui est en situation de dépendance et qui a besoin d'aide peut avoir la possibilité de mettre au monde un enfant qui va être dépendant, vulnérable et fragile? la question amène à un sujet qu'on lance sur Bruxelles et dont je voulais parler avant de passer la parole, qui est le fait que le droit à la parentalité est un droit et que si ces personnes ont des enfants, c'est important qu'on se pose la question de comment soutenir ces enfants qui vont se trouver d'une façon ou d'une autre dans une relation d'aide. Ils seront des jeunes aidants, ils seront fiers de l'être, mais ils seront dans une situation un peu spéciale. Et donc l'importance de se poser la question de comment nous nous positionnons pour soutenir ces familles qui ont créé des couples et ces couples qui font des enfants et ces enfants qui ont le droit d'être soutenus et ces parents qui ont le droit d'être soutenus. Voilà, je vous remercie pour votre attention.